Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, c'est un peu plus qu'une simple interview de radio. C'est un véritable entretien qui laisse place à l'écoute, la curiosité et l'empathie. Chaque week-end de l'été, Isabelle Morizet vous propose la collection Les Éblouissantes, des rencontres de femmes exceptionnelles. Elles se sont confiées en toute intimité au micro d'Europe 1. Aujourd'hui, c'est l'actrice, réalisatrice et productrice Julie Gayet qui partage avec vous son histoire.
Europe 1.
Bonjour Julie Gayet.
Bonjour.
Alors, chère Julie Gayet, je le dis tout de suite, pour vous comme pour les auditeurs, people, s'abstenir, car je ne vous interrogerai pas sur vos relations d'hier et d'aujourd'hui avec un ancien président de la République, ni par pudeur, ni par crainte de vos réactions, mais simplement parce que, en préparant cette émission, j'ai découvert une vraie femme d'entreprise dans le monde de la culture et du cinéma, autant en qualité de productrice de films et de documentaires que d'actrice. Mais c'est par le théâtre qu'on va démarrer. Vous n'étiez pas montée sur les planches depuis 22 ans, alors que vous êtes une hyperactive au cinéma. Pourquoi ?
Alors parce que c'est à cette heure magique du coucher, du bain, du dîner des enfants. Et quand j'ai eu mes enfants qui ont 18-19 ans, donc il y a 20 ans, je m'étais dit que j'allais essayer de privilégier ou de garder ce moment magique avec eux. Et puis au moment où, vers 8-9 ans, j'aurais pu commencer à m'intéresser de nouveau au théâtre, j'ai monté ma société de production.
Rouge International,
dont vous parliez il y a 2 secondes.
Et qu'on va évoquer plus largement tout à l'heure.
Et donc là, pareil, c'est comme porter une petite société, un bébé, ou en tout cas quelque chose qui était tellement important pour moi, donc pendant 5-6 ans. Et après ces 15 années, et bien là, j'ai commencé à avoir peur. Parce que quand on n'a pas joué depuis très longtemps, sortir comme ça de sa zone de confort, se dire... en même temps, forcément, puisque c'était ma formation, ça me titillait. Et puis en même temps, mon Dieu, t'es dingue. Pourquoi est-ce que tu retournes sur les planches? Ça va être terrible. D'abord, est-ce que tu as encore la technique? Est-ce que tu es capable de... Et donc, je disais oui en général. Puis, quelques jours plus tard, je rappelais la personne qui me proposait une expérience théâtrale en disant « Non,
finalement,
mais la
non.
production, c'est trop compliqué, je ne vais pas y arriver. » Et donc voilà, je faisais souvent faux bond. Et d'ailleurs, j'ai fait la même chose pour Claudia, qui n'a pas lâché. Et voilà comment je me retrouve aujourd'hui.
Apporter cette pièce intense. Alors, Julie Gayet, Rabbit Hole, en anglais, c'est une référence au terrier d'Alice au Pays des Merveilles, le terrier dans lequel Alice suit le lapin blanc. C'est donc une métaphore qui désigne le passage de l'autre côté d'un miroir. Mais là, il s'agit de quelle histoire et pourquoi ce titre, Rabbit Hole ? Pourquoi cette métaphore ?
C'est comment sortir d'un deuil ou d'une difficulté dans la vie quand on a eu, quand il vous tombe quelque chose de... Alors là, c'est le deuil d'un enfant, mais la perte de quelqu'un. Et c'est ce passage au travers d'un couple, d'une famille à l'américaine. C'est très, très bien écrit, des personnages hauts en couleur. Donc ça commence très fort, c'est très contemporain. On se fait embarquer dans ce... dans ce qui pourrait ressembler à un drame, et en fait c'est très vivant et dans la vie. Et ça parle d'amour, ça parle des différences, de la façon de vivre les choses et de respecter, d'aimer l'autre. Ça parle d'amour, donc de beaucoup d'amour et de respecter chacun à sa manière. On vit les choses et le deuil d'une façon différente et les choses d'une façon différente, et comment vivre ensemble et accepter et passer ces moments difficiles dans la vie. Moi, c'est une pièce qui m'a bouleversée. Alors, j'ai appris que Nicole Kidman l'avait interprétée...
En 2010, au cinéma.
Au cinéma, oui, ouais. Tout à fait. Et je n'ai pas voulu le regarder, mais c'est Susan Sarandon qui l'a joué au théâtre. Alors, ces grandes actrices, parce que c'est un rôle... je porte là quelque chose... Je peux pas me défiler, quoi. C'est de la première minute jusqu'à la fin. C'est une espèce de plongée. C'est un saut, mais merveilleux, merveilleux. Claudia Stavisky m'a ouvert un monde.
Celle qui signe la mise en scène.
Voilà.
Alors, il paraît que elle a, parce que Claudia Stavisky, elle dirige le théâtre des Célestins à Lyon, et il paraît qu'elle a pris le train pour Paris juste pour vous dire, les yeux dans les yeux, Julie, tu ne peux pas passer à côté d'une pièce pareille.
C'est ça, exactement. C'est, ce que je disais. J'ai fait un fond beau. Je lui ai dit oui, bien sûr, on va faire la pièce. J'ai énormément aimé ce texte. Et puis finalement, écoute, peut-être pas. Et elle est venue et elle m'a dit, si tu fais ça, tu regretteras toute ta vie. Et je dois avouer aujourd'hui que mais merci Claudia de m'avoir poussée, de m'avoir jetée dans le vide comme ça, de m'avoir obligée, forcée, parce que je lui dois énormément. Mais c'est incroyable. Alors, c'est cet échange aussi avec un public. Ça faisait très longtemps, j'avais envie de ça, j'avais envie de retourner comme ça, dans l'obscurité, avec retour...
L'obscurité, vous êtes en pleine lumière sur les planches, entourée de comédiens virtuoses d'ailleurs, il y a une sacrée troupe avec vous.
Ah ouais, et Patrick Catalifo, Lolita Chama, l'immense Christiane Coendi et Renan Prévost, je leur dois beaucoup, parce qu'ils m'ont soutenue dans ce trac, parce qu'au début, eux, étant d'immenses acteurs de théâtre, et ça c'est... Voilà, on est parti, je crois que ça se sent sur scène, cette osmose ou cette famille qu'on a su créer, parce qu'on s'entend extrêmement bien, et ça se répond, et ça... Enfin, c'est un travail collectif, c'est un travail de groupe, c'est ce que j'aime le plus.
Mais alors, en même temps, Julie Gayet, jouer la tentative de reconstruction après la perte d'un enfant, c'est pas un exercice du tout anodin, quand on est d'ailleurs dans la vie vraie maman de deux enfants. Comment tient-on à distance les peurs que ça pourrait générer ?
Est-ce qu'on les tient à distance ?
Est-ce qu'on les tient à distance ?
C'est aussi la magie ou la force ou la puissance de ce métier, c'est ce qui est très fort, c'est on vit l'instant présent, et là, ensemble avec le public, et on oublie tout, et on est là, sur scène, il y a quelque chose. Et donc tous les soirs, il y a cette reconstruction, tous les soirs, il y a ce chemin tellement bien écrit. Je ne sais pas si on tient à distance, en tout cas... J'aime cette idée de l'amour et de comment même une famille un peu dysfonctionnelle, hein, pas tout à fait parfaite non plus, on a besoin de passer par là, de se retrouver, de se confronter, de s'affronter pour pouvoir dépasser et arriver à s'abandonner.
On dit que le théâtre est une mise à nu plus forte que le cinéma, c'est vrai ?
Ah, je sais pas, j'aime énormément le cinéma, c'est différent, ça n'a rien à voir. Oh non, le cinéma, on peut être traversé. C'est pas du tout. C'est-à-dire que vraiment là, moi, ce qui me faisait très peur, et quand j'ai commencé les répétitions, je errais dans Lyon, puisqu'on l'a créé à Lyon, au Célestin.
L'année dernière,
dans le théâtre de Claudia Stavisky. Je errais dans Lyon, je vais jamais y arriver. Et je pleurais les larmes de mon corps. C'était cette chose qui est plus proche du chant lyrique, d'ailleurs, d'où je viens. C'est-à-dire de projeter, de me dire, là, il y a une technicité, il y a une façon de phraser, une façon de faire, de moudre, de prendre ce texte, de se le mâcher, puis d'arriver à le ressortir, que ce soit naturel tout en étant... Et moi, c'était la peur de ne pas savoir projeter, la technique complètement qui me paralysait. La veille...
Il n'y a pas de micro sur une scène de théâtre, hein ?
Il y a de plus en plus, mais nous, on n'a pas de micro. C'est particulier, donc il faut porter cette voix. Et moi, j'avais envie de réussir ça, pas simplement d'interpréter. Et c'est arrivé.
Merci d'écouter Europe 1. Dans un instant, la suite d'Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Julie Gayet.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Bon samedi sur Europe 1. Vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec les confidences de l'éblouissante Julie Gayet qui retrace son histoire familiale tournée vers le monde de la médecine et de la recherche.
Chère Julie Gayet, vous êtes issue d'une dynastie de médecins puisque... Votre père est un brillant professeur en chirurgie digestive. Il a fait partie des cabinets de Bernard Kouchner et de Claude Évin, ancien ministre de la Santé. Votre grand-père, lui aussi, était chirurgien. Votre frère l'est d'ailleurs, je crois, n'est-ce pas ?
Oui,
il est radiologue. Et votre arrière-grand-mère est sortie major de médecine dans les années 1900 et n'a pas pu exercer car... À l'époque, il paraît que sa famille avait vu d'un assez mauvais œil le fait qu'elle se retrouve dans la nécessité d'examiner des hommes parfois nus. C'est ça, dévêtus.
C'est ça. C'est-à-dire vraiment, à l'époque, elles étaient très peu. Je vois qu'elles devaient être deux ou trois en médecine. Et mais une femme brillante, que mamité, comme on disait. Et quand elle allait commencer ses études de médecine, son père a dit « Ah non, il n'y aura pas de pute dans la famille ». Alors là, quand mon père m'a dit ça, mais ça veut dire quoi ? Mais je comprends pas. Eh bien, parce que les femmes ne pouvaient pas voir les hommes nus dans cette famille bretonne.
On est avant la guerre de 14.
Avant la guerre de 14. Et donc, elle a dû se diriger vers la recherche. Et c'est grâce à elle qu'elle a découvert l'héparine. Elle a même découvert le bacille bulgare qui n'est pas le yaourt bulgare que vous prenez. En fait, c'est un bacille qui adoucit le yaourt. Enfin voilà, on dit le yaourt bulgari. Voilà. Une femme, une chercheuse femme forte qui a élevé voilà, 5 enfants, dont mon grand-père qui est parti donc rejoindre De Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc,
très jeune résistant.
Voilà, mais je me souviens de Mamité, donc j'ai eu cette chance de la connaître. Et c'est un peu un modèle, cette femme qui a fait ses études de médecine.
En fait, elle a envoyé des signaux à toute sa descendance, parce qu'elle a impacté toute une famille de médecins, de chirurgiens.
De chercheurs, de chercheuses. Moi, j'ai une cousine, grande cousine, qui est chercheure à Grenoble, qui a un laboratoire, qui travaille sur l'ADN poubelle. Et je suis très admirative, parce que évidemment, tous les hommes travaillaient sur l'ADN, le grand ADN. Elle est allée chercher l'ADN poubelle et elle a découvert que dans l'ADN.
L'ADN poubelle.
Que dans l'ADN poubelle. Ah là là, si Claire m'entendait. Que dans l'ADN poubelle, il y avait ces marqueurs qui, ce qu'on mange, nos goûts, nos influent sur notre ADN et finalement modifient l'ADN. Et donc, ce qu'on aura vécu a un impact réel, physique. Donc, elle travaille là-dessus, et puis une mémoire, donc cette mémoire et tout ce que ça impacte. Mais c'est passionnant, il faudrait lire ses recherches, mais on passe des heures à discuter.
Vous nous rappelez son nom ?
Avec elle, Claire Vourche, voilà, donc à Grenoble, dans son laboratoire. Mais donc d'une famille de Bretons, de chercheurs, de médecins, de femmes brillantes qui m'ont beaucoup influencée.
Alors, on reste sur cette famille étonnante. Julie Gayet, votre père est donc chirurgien, et il paraît que très très tôt, il vous a entraîné dans le monde hospitalier, vous confrontez forcément à l'idée de la vie et de la mort. C'est vrai ? Vous l'avez accompagné, petite fille, à l'hôpital ?
Alors, il est persuadé de l'importance du cerveau, enfin du mental, pour soigner et guérir, et donc de voir à quel point les gens accompagnés et les gens seuls n'ont pas exactement la même égalité des chances. Donc, il me disait souvent, j'ai un patient qui est seul, il n'a jamais de visite, est-ce que tu veux pas venir ? Et donc, je faisais le clown, j'allais le week-end, je faisais la visiteuse des voilà, des patients seuls, donc c'était une façon de faire le clown peut-être, de mettre de la musique en fonction de l'âge, en fonction... Et j'aimais beaucoup, beaucoup faire ça, lui dire « Ah oui, vraiment, avec plaisir, mais je viens, moi, je ne vais pas laisser, on ne va pas les laisser seuls. » Donc voilà, ça c'est un peu... Mais l'idée de la vie et de la mort, c'est vrai que je suis dans une famille où on a toujours eu un rapport comme ça, très particulier, de force de vie, de la chance d'être en vie, de tous les jours se dire à quel point j'ai de la chance voilà, d'être là et... Et mon père avait voilà, cette petite phrase quand on pouvait se plaindre ou s'il y avait un petit souci, dire « Tu veux venir au sous-sol voir comment ils vont ?» Mais alors
sous-entendu à la morgue,
à la morgue. Et moi j'ai dû voir, je pense, la première fois que j'ai vu quelqu'un voilà sur une civière être emmené à l'hôpital. Je devais avoir 6-7 ans. Et je m'en souviens très très bien. Et ce rapport à la vie et à la mort est peut-être une des raisons pour lesquelles Rabbit Hole, la pièce,
oui,
m'a beaucoup plu, parce qu'il y a beaucoup de vie dans cette pièce. Alors je le dis et je le redis, mais c'est ça que j'aime. Voilà, dans la sensibilité des Américains, de savoir rire, on pleure et on rit, comme dans la vie. Voilà, comme vous disiez tout à l'heure.
Alors je continue de dérouler le fil, Julie Gayet. Il paraît qu'à l'âge de 15 ans, vous avez assisté donc au bloc à une transplantation du foie réalisée par votre père.
Comment vous savez ça, Malin, c'est incroyable.
Je cherche.
J'en reviens.
Et il paraît que vous étiez absolument donc fasciné par l'enjeu que représente une telle opération, qui est vraiment la promesse d'une vie nouvelle si elle est réussie, cette opération. Vous auriez donc pu faire médecine, mais vous n'avez pas fait médecine. Est-ce que c'était une manière d'échapper à l'empreinte familiale ?
Je ne sais pas si c'est d'échapper, mais voilà, en tout cas, le théâtre m'a happé, ou l'interprétation, le jeu, voilà, le cinéma ensuite. Mais c'est quand même incroyable de voir une transplantation. De fois, je recommence, mais vraiment, c'est la magie.
Surtout quand c'est son père qui semble être Dieu soudain dans le bloc opératoire.
Alors justement, ce que j'aime avec lui, c'est qu'il dit qu'il n'est pas Dieu. Et que donc, c'est cette chose de dire peut-être que lui, il mourra demain en traversant la rue. Que l'important, c'est de faire, c'est d'avancer pas à pas et d'être sur le chemin et pas de penser... Voilà, que tout est déjà dit. Au contraire, il y a toujours un pourcentage incroyable de choses qui ne sont pas comme on peut les imaginer. Donc il est toujours beaucoup plus... Mais bref, sur les transplantations de foie, je dois avouer que j'ai eu une révélation. Mais je me disais que peut-être comme comédienne, je jouerais un jour le rôle d'une chirurgien.
Voilà.
Qui sait ?
Voilà.
Restez avec nous, on retrouve Isabelle Morizet et Julie Gayet dans un instant sur Europe 1.
a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1 et il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Julie Gayet nous révèle que sa première passion de jeunesse n'était pas la comédie.
Chère Julie Gayet, j'aimerais qu'on reste un moment sur le premier chapitre de votre histoire, car ceux qui vous ont connue adolescente ont bien cru que vous deviendriez chanteuse lyrique. Vous
c'est
avez
vrai.
Énormément travaillé. Il paraît que les dernières années, en fait, vous faisiez à peu près 3 heures de chant lyrique par jour, c'est
ouais,
ça?
Absolument. Oui, absolument. Tout à fait. Vous êtes bien... Exactement. J'adorais ça. C'était... une révélation. Mes parents m'avaient inscrit à un petit cours de piano de quartier et j'ai trouvé ça long et laborieux et compliqué. Et ma prof de piano donnait des cours de chant. J'ai commencé comme ça et ça a été une révélation.
Quelle était votre tessiture ?
Alors, mezzo-soprano, soprano léger. J'avais une large tessiture. Alors aujourd'hui, je dirais mezzo-soprano.
Mezzo-soprano. Alors Julie Gayet, ça n'est pas évident de chanter aux funérailles de sa grand-mère. Vous l'avez fait, et vous l'avez fait en interprétant l'air de Barberine, des Noces de Figaro, de Mozart. Comment contrôle-t-on sa voix quand l'émotion est si dense et si chavirante ?
C'est probablement pour cette raison que je suis allée vers le théâtre et l'interprétation. Barberine, c'est donc un air dans les Noces de Figaro où elle a perdu, on lui a donné une épingle et elle a perdu, le personnage est désespéré d'avoir perdu cette chose. Un peu ce que je joue là avec Rabbit Hole, dans le rôle de Becky, le désespoir de la perte. Et en chantant l'opéra, j'avais envie de pleurer, j'avais envie d'aller plus loin dans l'interprétation. Et on ne peut pas pleurer quand on chante.
Et oui.
Et là, oui. Tout à coup, le chant lyrique qui me remplissait, m'épanouissait, enfin, j'avais un plaisir inouï et à plonger dans les rôles, alors aussi la chance d'avoir cette voix.
En même temps, vous êtes en train de nous dire que vous avez constaté que c'était un peu réducteur si on voulait aller tout au bout des émotions. Parce qu'il y a toujours la technique, la voix projetée,
voilà.
Mais qu'on ne peut pas se laisser totalement envahir par le sentiment.
Et j'avais envie d'aller beaucoup plus loin. Et d'où le théâtre.
C'est vous qui aviez proposé de chanter donc cet air de Barberine des Noces de Figaro aux funérailles de votre grand-mère.
Oui, c'est moi. Et je dois avouer.
Comment vous l'avez vécu ?
Ah, c'est un moment marqué à jamais dans ma mémoire. Et pour évidemment mes parents. Mais c'était donc tout en haut, près de l'orgue, tout en haut de l'église. J'étais tout en haut et. Ça résonne dans une église, donc c'est et surtout l'émotion, parce que la tristesse, là, c'est voilà un peu comme la scène, comme le théâtre, ces émotions tous les soirs. C'est-à-dire que là, vraiment, dans Rabbit Hole, on a des émotions d'une puissance, des larmes, tout en étant dans un rythme et une énergie qui semble être une pièce de boulevard quasiment, enfin vraiment de la comédie. C'est très Pinter, c'est très anglo-saxon cette écriture de David Lindsay Abert. Et puis on s'effondre. Enfin, j'ai du mal à parler de moi.
Oh mais oui. Alors si, moi je vous force à parler de vous et on va continuer d'ailleurs parce que vous venez de nous confesser en fait que c'est parce que effectivement lorsqu'on chante on ne peut pas se laisser aller aux larmes alors qu'on le peut lorsqu'on joue, que vous avez décidé d'aiguiller autrement donc votre carrière et vous avez abandonné le chant lyrique pour le jeu. Donc, comme vous faites toujours les choses à fond, vous êtes partie à Londres pour apprendre les techniques de l'acteur studio.
C'est exactement ça. C'est-à-dire de me dire, on est en France, donc je prenais des cours de théâtre et on a du mal, c'est comme si tout était intellectualisé et ne passait pas par le corps. Alors, à ce moment-là, de me rendre compte que les acteurs américains n'ont pas... C'est cette fameuse anecdote sur le jeu des Anglais de Laurence Olivier versus Dustin Hoffman quand ils jouent dans Marathon Man. Il y en a un qui va courir et qui fait tout le tour comme ça du stade et l'autre qui est assis sur son siège et qui dit « c'est ça le jeu ». Je suis partie faire l'acteur studio donc avec le professeur de Dustin Hoffman. Il donnait des cours à Londres, on était 12 et j'ai eu cette chance inouïe de travailler avec lui. Alors en France, quand on passe dans des cours de théâtre, tout le monde regarde la personne qui passe. Oh, il est pas bon, il est bon. On juge beaucoup. On travaille comme des fous avant pour être très bon le jour de la... Et quand je suis arrivée à Londres, j'avais bossé comme en France, j'ai essayé d'être très bonne. Et le prof me regarde et fait « So what ?» Alors maintenant, on va commencer à s'amuser. Et là, il m'a dit, alors tu le fais en rampant. Et j'ai regardé, il s'en fichait complètement du résultat. Ce qui importait, c'était de le faire et de s'amuser et de chercher.
Alors, en fait, Julie Gayet, le métier de comédienne, bah, avant de l'exercer réellement, vous l'avez abordé avec une curiosité gourmande, puisque vous avez étudié l'art à l'université Sorbonne Nouvelle, mais vous avez aussi passé un an et demi à l'école du cirque Annie Fratellini, c'est ce que j'ai découvert. Incroyable.
Toujours dans cette idée du corps et en même temps de l'esprit, c'est-à-dire d'un côté la fac parce qu'il fallait se nourrir et quand même
se nourrir la tête et en même temps le corps. Alors quelle discipline vous avez fil de fer,
j'étais funambuliste.
Fil de feriste, mais racontez-nous.
Alors, moi qui aime le collectif et l'esprit du cirque est collectif, là je dois dire que le funambule, c'est marcher sur un fil, c'est incroyable. C'est-à-dire vraiment se projeter loin, ne jamais regarder en bas, parce que c'est une espèce de philosophie sinon tout.
Oui, oui, c'est une jolie métaphore.
Avoir une vraie tension et en même temps être totalement souple et détendu. Donc comment être vraiment dans la concentration efficace et atteindre le but tout en étant relâché et souple. Et puis, il y a cette impression de flotter, de grâce.
Mais vous avez
grâce.
Participé à des spectacles où vous étiez seulement élève à l'école du cirque.
Ça a commencé pour un film, je faisais un stage, j'avais été, et puis en fait, j'ai tellement aimé que je suis restée. Et je suis restée une année, on a fait un spectacle, et ça a été pour moi vraiment une révélation. Mais alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a une autre actrice qui faisait l'école du cirque en même temps que moi, et personne ne le sait, donc je vous le dis, si vous la recevez, c'est Léa Drucker.
Ah oui,
Léa Drucker. Léa, elle faisait ça aussi, elle est pareille, cette envie de chercher le corps et d'aller se... Bon, après, je faisais de la voltige, beaucoup de voltige, parce que je savais, voilà, j'avais fait de l'équitation, de l'acrobatie, et du clown, pas forcément la meilleure du monde en clown, mais j'ai réussi au bout d'un an à trouver mon clown, une espèce de,
c'est formidable,
d'olive.
C'est beauté Hitchcockienne qui nous dit qu'elle n'était pas forcément le meilleur clown de l'école du cirque. Mais...
Voilà. Et surtout pas du tout très bonne en jonglage, puisque je suis très dyslexique et le jonglage, c'est tellement difficile. Voilà.
Isabelle Morizet et Julie Gayet jusqu'à 16h, la suite dans un instant. Europe 1. Aujourd'hui, dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, l'actrice Julie Gayet, qu'Isabelle Morizet a reçue en janvier 2019.
Alors, chère Julie, j'ai dit au début de cette conversation que je ne vous parlerai pas de relations d'hier et d'aujourd'hui, ça l'a fait rire, avec un ancien président de la République, et je m'y tiendrai. Alors, vous me permettrez seulement cette question qui, vraiment, vous allez voir, est très légère. Quand une actrice engagée, parce que vous l'êtes, vit avec un ancien président de la République cinéphile, eh bien, il parle plus souvent culture et cinéma ou société et politique.
Oh, les deux, mon général, les deux.
Les deux.
De tout. C'est ça la richesse. Mais vous avez raison, il est très cinéphile.
Mais je sais, très cinéphile.
Peu de gens le savent, mais vraiment très cinéphile. Il me souvent, d'ailleurs, sur le cinéma américain, il est beaucoup, beaucoup plus fort que moi. Et c'est assez passionnant, donc on a autant de plaisir à parler de politique que de regarder un bon film. Voilà, donc c'est assez agréable. Et il est venu voir la pièce, Rabbit Hole, au Bouffe Parisien, et il a aimé. Donc ça, voilà, ça a été pour moi très important. J'avais envie d'avoir son regard.
Bien sûr.
Et il a aimé, donc bon.
Alors, chère Julie,
tout de suite je deviens rouge,
là,
je suis gênée.
C'est pas grave, on est en radio. Chère Julie, et là je reviens à vous. En fait, c'est la première fois depuis 1958, date de naissance de la Ve République, c'est la première fois qu'une femme qui partage la vie d'un président de la République ne modifie en rien sa vie professionnelle, garde le cap et ne se laisse pas impacter. Cette femme, c'est vous. Donc il faut une force de caractère assez exceptionnelle quand même pour tenir ainsi le cap de son destin
sur un fil, comme les funambulistes,
voilà.
comme on disait tout à l'heure, peut-être mon expérience sur le fil. Mais c'était très important pour l'image de la femme, pour ce que ça raconte du couple, et puis de respect. C'était très important pour moi, chacun à sa place, c'est très important. Et le respect l'un de l'autre.
Alors, je reviens à votre carrière, Julie Gayet. Vous avez toujours été très curieuse de ces techniques qui sont les composantes d'un film. L'écriture, le tournage, le montage, et puis avant tout, pour que le miracle existe, le financement. On voit pas mal d'actrices réaliser des films. Vous, vous les financez avec la boîte que vous avez montée en 2007, Rouge International. Mm-hmm. Mais ça doit être très très rude le métier de producteur, parce que en fait, pour Rouge International, votre job consiste à trouver de l'argent et convaincre en permanence des sociétés et des mécènes.
Moi, j'ai toujours vécu mon métier de comédienne aussi comme une responsabilité, un choix moral dans nos rôles, dans ce qu'on représente, dans ce qu'on veut jouer. Et puis aussi, peut-être parce que j'ai fait Histoire de l'art, soutenir des nouveaux auteurs, des nouveaux créateurs, des nouveaux artistes. Mais ça va aussi avec, vous parliez d'engagement. Oui, je partage certains engagements, des positions qui font que tout à coup, simplement jouer, c'était bien, mais pouvoir soutenir et aider des metteurs en scène à faire leurs films et à dire des choses, c'était très important. Mais mon métier, c'est l'interprétation. C'est de plonger dans des rôles, c'est de plonger dans les univers des metteurs en scène. Et comme productrice, c'est simplement continuer ce travail-là en permettant à des metteurs en scène de s'exprimer. C'est pas moi l'artiste, c'est eux. C'est eux qui racontent, qui ont un univers.
Julie Gayet, pourquoi ce nom Rouge International pour votre société de production? C'est intriguant.
Alors, c'est pas international avec un E comme l'international.
Oui, mais c'est rouge tout de même.
Mais c'est rouge. Parce qu'on est des filles et qu'on était deux femmes et qu'on se disait qu'on voulait pas d'abord un nom anglais, on voulait que notre boîte soit vraiment française, mais que ça se prononce à l'international, puisqu'on est assez connus maintenant partout dans le monde. Et donc, rouge, c'était le Moulin Rouge. On se disait que ça allait tous dire rouge. Et c'était le rouge à lèvres. C'était aussi donc le féminin chez nous. Le côté engagé et un peu enragé aussi.
Oui, oui.
Donc ça correspondait bien à tout ce qui nous... Voilà, tout
et
ce
d'ailleurs,
qui nous
c'est drôle parce que je dis à mes amis auditeurs que pendant que Julie Gayet nous explique tout ça, je vois sur le dossier de la chaise un pull d'un beau rouge coquelicot. Donc effectivement, elle aime cette couleur. Bon, Julie Gayet, cette pugnacité de productrice de films d'auteur, elle n'a pas du tout fait d'ombre à votre carrière et tout le monde dans le milieu du cinéma la salue. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez imaginé que peut-être ça pourrait mettre un frein? Les gens de cinéma doivent avoir compris maintenant que vous êtes tout sauf malléable. Alors, il y en a certains qui sont complètement admiratifs et il y en a peut-être qui se disent « Attention, elle voit tout, elle sait tout des étapes de construction d'un film. Comment l'utiliser comme actrice sera-t-elle
C'est mal me connaître ordres. Alors pour le puisque vraiment quand je suis comédienne, je suis au service et totalement et puis j'aime bien qu'il y ait des règles dans la vie, des choses simples. Quand je produis, je ne joue pas dans les films dans lesquels je produis. Vraiment, en tout cas quand je suis comédienne, je suis là pour le réalisateur complètement et entièrement. Je viens de faire une série pour France Télévisions avec Lionel Bayou, avec Bruno Debrandt et Thomas Jouannet. C'est un bonheur, vous verrez peut-être cette série bientôt.
Quel en est le titre?
Soupçon. Oui. Un film de Hitchcock, puisque vous avez commencé par ça.
Ah bah oui, héroïne hitchcockienne en diable.
Et non, j'aime ça. Moi, j'aime vraiment jouer, interpréter, mais je suis là à disposition pour les metteurs en scène. Après, on est un modèle. Enfin, je sais que moi, on m'avait dit, ne fais pas des enfants très jeunes. Pour ta carrière, c'est pas très bon. Je me souviens d'une attachée de presse qui m'a dit, oh mon Dieu, t'as des enfants, t'es enceinte. Pour mon premier enfant, oh, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, rien, formidable. Écoute, je vais tout faire en même temps, et qu'importe. Et je n'ai jamais écouté personne. Je n'ai jamais... Je trouve qu'on ouvre des portes. J'ai eu une arrière-grand-mère qui a ouvert des portes. Donc elle m'a ouvert le chemin.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet et Julie Gayet reviennent dans un instant.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Vous écoutez Europe 1 et la collection Les Éblouissantes, Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Dans cette partie, Julie Gayet nous raconte son expérience intense de metteuse en scène d'opéra en 2017 avec Les Noces de Figaro.
Alors, chère Julie Gayet, le 13 juillet 2017, pour la 17e édition du festival Opéra en plein air, on donnait à Carcassonne une sublime représentation des Noces de Figaro de Mozart. Et le metteur en scène de cette soirée d'opéra en plein air, c'était vous. Pourtant, quand Benjamin Patou, le producteur de l'événement, vous avait contacté pour donc signer la mise en scène, il ignorait absolument que vous aviez étudié le chant lyrique jusqu'à l'âge de 18-19 ans. Pourquoi vous voulait-il vous et personne d'autre?
Alors, Benjamin fonctionne par coup de cœur, et ça, je dois avouer que j'aime ça chez Benjamin. J'aime les gens qui n'écoutent justement personne. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi? Et il me dit, alors, est-ce que c'est des liens parce que Ariel Dombal, parce que Julie Depardieu, parce que Julie Depardieu, parce que Anne Gravoin.
C'est revenu
et
à
donc,
son oreille.
Petit à petit, tout le monde lui avait parlé de moi et il m'a tout de suite fait confiance parce que quand même, une mise en scène d'opéra, comme vous dites, c'est une folie totale. Une folie. Je suis partie pendant 3 mois, mais à mon avis, il faut un an et demi pour monter un opéra.
Et
j'avais
vous
six
avez
mois
eu
et en
six
réalité
mois.
3 mois vraiment pour pouvoir boucler cette mise en scène. C'était une folie. Mais tout de suite, alors je lui ai dit, moi je vais être dans le concret parce que j'aime le concret. On va tout de suite essayer de voir ce qu'on peut faire avec du recyclage. On est dans une époque où il faut recycler. J'aime énormément Agnès Varda.
Oui.
Elle avait fait Les Glaneurs et la Glaneuse. Je lui dis, tu as fait tous ces opéras, il reste des costumes. On va prendre tous ces costumes, on va les recycler.
Des costumes
on va chercher
d'Agnès Varda.
De toutes
génial.
Les époques, de toutes les mises en scène qui avaient été faites avant. Et j'ai décidé de faire du recyclage et de faire une mise en scène, mais vraiment minimaliste, avec le texte. Et comme j'avais interprété, que je connaissais bien cet opéra, retrouver le jeu, le sens et donc
oui,
plus m'amuser.
Oui, une nouvelle relecture tout de même des Noces
voilà.
de Figaro.
Mais je ne referai plus, enfin je veux dire c'était une folie, une
mais alors,
folie.
De façon très concrète Julie Gaillet, parce que effectivement c'est un travail titanesque de signer la mise en scène d'un opéra pareil. Vous avez procédé comment étape par étape? Par exemple, on ne peut pas demander à un chanteur lyrique les déplacements et les effets qu'on demanderait à un acteur.
Alors comme je les connaissais, puisque j'ai été chanteuse lyrique, donc je connaissais les chanteurs lyriques, donc je sais ce dont ils ont besoin pour être rassurés, pour arriver à bien chanter, et ce dont ils seraient capables ou pas. Et donc j'avais vraiment, alors je leur donnais des exemples, c'était très drôle, donc il y avait le comte, je lui disais, ben, tu vois, tu es Jean-Pierre Marielle, alors je leur donnais des exemples à chacun pour qu'ils se retrouvent, et vraiment être sur la direction des acteurs. Après, j'ai eu aussi beaucoup de chance, c'est que je me suis associée à Ken Higelin.
Oui.
Ken qui est comédien comme moi et qui en même temps a fait des mises en scène pour Arthur Ashe, qui faisait des choses
donc un fils de Jacques Higelin,
un des fils de Jacques, et qui m'a permis de pouvoir me démultiplier parce que la difficulté c'était d'être à la fois là pour les décors, pour les costumes, pour la direction d'acteurs et donc une scénographe, et j'ai mis une petite équipe toute légère et on a décidé de se démultiplier et de faire des miracles en étant tous un peu partout.
Mais vous auriez pu interpréter le rôle de Barberine que vous connaissiez par cœur.
Ah non, ça
vous
y
vous êtes
j'ai
posé la question à un moment donné
non.
ou non?
Non, j'ai voulu et ça c'était le seul veto du chef d'orchestre et je regrette en fait encore aujourd'hui malheureusement que Barberine soit pas une jeune fille de 16-17 ans parce que moi j'avais 15 ou 16 ans la première fois que je l'ai chantée.
Oui.
Et c'est le rôle d'une très jeune femme, il n'a pas voulu et j'avais fait des essais avec de très jeunes chanteuses, j'aurais aimé faire ça. C'était aussi cette idée toujours hein, de faire découvrir des jeunes talents.
Alors Julie Gaillet, s'il fallait garder un souvenir peut-être plus précieux que les autres de cette représentation sous les étoiles, donc à Carcassonne, ce serait lequel?
Alors je crois que c'est quand Eve Ruggieri est venue me dire qu'elle avait aimé ma mise en scène, alors là, je peux vous dire. Je dis bon alors si Eve Ruggieri a aimé ma version de... Je crois que là, c'était... Non, ça, c'était assez magique.
Vous êtes prête à recommencer, si on vous fait signe, Anne? Avec un
tout
petit tout peu plus que 3 mois, c'est ça?
C'est une folie, voilà. Je ne l'accepte. Non, je voyais, il y avait Guillaume Gallienne qui montait un opéra en parallèle, et je voyais les moyens de Guillaume, puisqu'on se connaît bien, et je disais, dis donc, moi, je veux bien venir à l'Opéra de Paris. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Ah, ben voilà.
J'avais dit non, mais pourquoi pas?
Eh ben voilà, le pourquoi pas va résonner sur les ondes d'Europe 1. Bon, Julie, juste avant de faire une pause, c'est vraiment un outil miraculeux, la voix, car ça dévoile beaucoup de l'intimité d'un être.
Ouais.
Il paraît que vous auriez adoré avoir la voix de Jeanne Moreau. C'est vrai?
Oui. Quand j'étais jeune, j'avais une voix très aiguë, beaucoup plus de petite fille. Et donc j'allais tous les jours... chez le boulanger en disant « Bonjour, je voudrais une baguette de pain, s'il vous plaît. » Parce que j'essayais de me casser la voix pour avoir la voix de Jeanne Moreau.
Elle devait être contente, votre prof de chant lyrique.
J'étais désespérée. Mais c'est une des raisons pour lesquelles, quand j'ai commencé le théâtre, j'ai fait ce choix de ne plus jamais chanter. C'est que je savais que je me casserais la voix, je m'abîmerais la voix. Et je me suis dit « Bon, ben voilà, là, je vais commencer à crier. » Je m'étais mise un tout petit peu à fumer, même si je ne fume plus aujourd'hui. Et j'ai décidé de ne plus jamais chanter. Voilà, donc ça a été comme un... Ah, ça a été très très dur. Et c'est Benjamin Biolay qui m'a emmenée sur Clara et moi et qui m'a dit « Non mais là, il faut que tu chantes. »
Jusqu'à 16h, vous écoutez « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». La suite dans un instant. Bon après-midi sur Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
C'est déjà la dernière partie d'Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Julie Gayet nous révèle ses secrets d'actrice pour protéger sa vie personnelle de son métier.
Cher Julie Gayet, plus que les autres arts sans doute, le cinéma est, j'ai envie de dire, un voleur d'âme qui adore dévorer ses enfants. Et la liste est longue de ces actrices qui ont tout donné, peut-être trop donné, et se sont brûlées les ailes, de Jean Seberg à Romy Schneider. Alors, comment doivent faire les actrices pour impressionner la pellicule sans vendre leur âme?
Est-ce que c'est vendre son âme? En tout cas, je suis adepte, mais c'est après chacun a sa façon de faire et je ne porterai certainement aucun jugement là-dessus. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu tendance à fermer la porte derrière le travail quand je rentre chez moi. Et ça a été peut-être cette façon de me protéger. Je me souviens de très jeune... Quand j'ai voulu faire ce métier, mon père m'avait dit, mais tu étais terrassée. Je pense qu'ils avaient très peur, comme tous les parents, en disant, mais tu te rends compte, les actrices sont déséquilibrées. Enfin, voilà, ce que vous êtes en train de dire sur l'âme. Et il me dit, cite-moi le nom d'une actrice qui a une vie de famille équilibrée. Et alors, à l'époque, je n'étais pas vraiment très, très, très forte sur la vie privée. Et je ne le suis toujours pas d'ailleurs, je ne connais pas la vie privée des gens. Et donc, je réponds, Romy Schneider. Ah, très bon exemple.
Parlons-en
de Romy Schneider. Et donc, je dois avouer, parce que j'aimais cette actrice, et où ça aurait pu être Simone Signoret, ou toutes ces... Et c'est vrai qu'il m'a aidée d'une certaine manière à comprendre qu'il faudrait, parce que j'avais envie de ça. Enfin, moi, j'ai toujours eu cette chose très terrienne de la vie, de protéger sans ne pas m'abandonner. C'est-à-dire que quand je joue, je donne 100%, 200%, je suis complètement et entièrement dans ce que je fais. Mais savoir fermer la porte.
Alors, si je fais la comparaison entre le cinéma et le théâtre, j'ai envie de dire qu'au théâtre, peut-être le postulat du jeu est mieux établi. Il y a moins d'identification, c'est ça ?
Alors, quand on le vit, c'est vrai qu'il y a un début, une fin, ça dure 2 heures et c'est terminé. Donc, on ouvre, on referme, et voilà.
Une temporalité en fait, spécifique
au théâtre. Et c'est vrai que le cinéma, c'est des petits bouts, et on peut être pendant 4 mois, 5 mois de tournage, c'est peut-être plus compliqué. Alors en plus, quand on part tourner en province, qu'on est avec toute une équipe, je me souviens de voir Denis Podalydès sur un tournage qui arrivait à régler ses factures d'EDF et à faire... Je me suis dit, mais il est impressionnant, parce que moi, je ne faisais plus rien d'autre. J'étais complètement dans mon rôle. Et je me suis dit, tiens, c'est lui qui a raison, il faut arriver à faire ça. Mais j'avais du mal à le faire sur les plateaux. Moi, je le faisais en rentrant, en ayant fermé la porte.
On a, quand on est donc comédienne, ce rendez-vous absolument incontournable. Parfois, on n'est peut-être pas d'humeur. Et il va falloir investir le chagrin, il va falloir investir l'intensité du rôle, il va falloir aller coûte que coûte à la rencontre de ces gens qui ont payé leur place. C'est pas si évident.
Comme dirait mon arrière-grand-mère, on fait avec et le sourire. Donc, toute ma vie est comme ça. C'est rentrer, sortir. Le rôle de maman aussi. Bah, pareil, on pose le travail derrière la porte et là, je suis maman et que maman. Alors, ce côté peut-être petit soldat dont on parle beaucoup quand on parle de moi, c'est surprenant. D'ailleurs, je me dis toujours pourquoi. Mais voilà, moi, je suis dans le concret, je fais. Donc, je trouve ça même assez important de pouvoir faire ça.
Alors là, maintenant, tout de suite, Julie Gayet, avant qu'on ne se quitte, parce qu'il file, hélas, le temps, je vous pose cette question, le projet que vous attendez avec le plus d'impatience cette année, c'est lequel ?
Le projet personnel, le projet...
cette année.
Le projet le plus important. Là, on lance un très beau film. On a eu l'avance sur recette de Catherine Poulain, l'adaptation d'un roman de Catherine Poulain. Donc, c'est réalisé par Dinara Drokharova. Le grand marin. Voilà, une femme qui part comme ça en Alaska, à l'autre bout du monde, faire de la pêche au gros. Donc ça, c'est en productrice, en actrice. Je dois avouer que je rêverais de partir en tournée avec cette pièce, de jamais arrêter tellement c'est bon le théâtre quand c'est bon.
Écoutez, vous qui avez eu en tout cas un rire absolument délicieux quand je vous ai posé cette question sur le projet que vous attendez avec le plus d'impatience, je me permets de rajouter, projet professionnel ou qu'il soit personnel et intime, je vous souhaite tout le bonheur du monde, Julie Gayet. Merci infiniment de vous être livrée, vous toujours si pudique et si secrète, avec autant de générosité. Je rappelle à nos amis auditeurs que bien évidemment, ils peuvent écouter en podcast cette émission. Merci à Corinne Reich qui réalise. Merci à Laure Gignès qui programme. Et puis bonne fin de journée à l'écoute d'Europe 1.
Merci Isabelle, on vous retrouve demain pour un nouvel entretien exceptionnel de la collection Les Éblouissantes avec Brigitte Bardot. Et pour réécouter les confidences de Julie Gayet, rendez-vous sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr et les podcasts d'Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Dans un instant, Carl Zéro pour un nouveau numéro de Culture Culte avec Bernard Werber.